donc ouvrir la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Romains, chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu est celui qui a tout créé, tout ce qui nous entoure. Amen. Les hommes font des recherches, trouvent certaines choses, mais le créateur de toutes choses, c'est lui. L'intelligence humaine. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur qui avait été opérée plusieurs fois, etc. J'ai dit, ben, on peut dire merci au Seigneur pour ces hommes hein, qui vous ont soigné, qui ont pu eh bien, vous faire du bien, vous aider à vous relever. Elle me dit oui. Et c'est vrai qu'on peut remercier Dieu pour l'intelligence qu'il donne. Amen. Ou à la médecine, à la recherche. Tout ça, c'est pour notre confort, c'est pour notre bien. Et puis, il y a la foi aussi. Et quand on exerce la foi aussi, il se passe des choses. J'étais dans un pays, la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas des mutuelles. Et quand on doit passer par la médecine, quand on est malade, eh bien, ou on exerce la foi, ou alors ben, on attend avant d'avoir les moyens. Donc, le mieux, c'est d'exercer la foi. Et comme il n'y a rien, eh bien, on croit. Quand on présente le Seigneur Jésus, on croit. C'est comme ça que j'ai pu assister à une résurrection, j'ai pu assister à pas mal de guérisons durant un temps de mission. Tout simplement parce que le Seigneur entend. Il dit que la prière du juste a une grande, grande efficacité. Je vais prendre le temps de mettre, hop, voilà. Parce que si je mets toutes les 30 secondes, je vais être obligé de tic, tic, tic. Voilà, c'est fait. Je reviens à mon message, voilà. J'ai oublié de le faire. Voilà, donc, que dit Paul ? Les perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Il était au commencement et Jésus était au commencement avec lui quand on les considère dans ses ouvrages. Alors, nous allons parler de la connaissance de Dieu en commençant justement par eh bien, les œuvres de la création. Et c'est vrai que l'observation est une saine réflexion, parce qu'on peut être logique quand même, eh bien, nous font connaître comment le créateur de l'univers eh bien, est, quelle est sa puissance. Amen. On nous fait comprendre, on nous fait voir Dieu finalement comme eh bien, étant celui qui crée, qui amène à la vision des choses que l'homme ne peut pas voir. En tout cas, les ouvrages du créateur se distinguent dans plusieurs domaines. Il y a l'univers, les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et il y en a. Hein ? Les créatures vivantes comme les animaux, les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres. Et par-dessus tout, la plus belle de ces créations, c'est quoi ? C'est qui ? C'est moi. Ben, c'est toi aussi. Parce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, la plus belle des créatures ou des créations de Dieu. C'est le psalmiste qui dira ceci, le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Partout, tout l'univers, tout ce que nous pouvons voir et même que nous pouvons imaginer, eh bien, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, bien sûr que nous devrions être plus attentifs au langage de l'univers créé et reconnaître en lui, justement, la sagesse et les perfections de Dieu. Quelle perfection ! Waouh ! Et ça, dans le but, bien sûr, de lui rendre gloire. Parce que quand on réalise un petit peu, quelquefois on regarde des documentaires sur la nature, sur eh bien des choses particulières, sur les arbres, et il y a une sacrée intelligence dans l'arbre. Ils arrivent à s'entraider, à se protéger l'un l'autre. Mais c'est des choses que si on s'arrête pas pour prendre le temps de comprendre, de saisir, bon, c'est un arbre, c'est du bois, on le coupe ou on le fait brûler. Ou alors on en tire des planches, on en tire des choses comme cela, vous voyez. Mais il y a une sacrée intelligence. Toute la nature, Quand on sait que c'est Dieu qui l'a créé, attendez, mais l'intelligence de Dieu est bien supérieure à la nôtre. La connaissance de Dieu me le surpasse toute connaissance. Amen. Alors, à cause de son insensibilité au témoignage de la création, voilà que notre monde est plongé dans les ténèbres de l'ignorance et surtout du péché. Parce que, eh bien, l'homme désobéit. Alors, Dieu reproche, bien sûr, à ceux qui ont le témoignage de ces perfections visibles, cette fois-ci, de la création. Nous voyons, hein, nous devrions justement réfléchir à cela. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Et, mais, oh là là, quand on regarde un peu, on dit, mais heureusement que c'était comme ça. Eh oui, mais qui c'est qui a créé cela comme ça, justement? Eh bien, c'est Dieu, bien sûr. Hein. Alors, comment ne pas glorifier notre Seigneur, le Dieu de la vie, le Dieu créateur unique et tout-puissant? C'est pour ça que nous devons apprendre à observer la création qui nous entoure. Les animaux jusqu'aux plantes. Alors, nous allons reconnaître la sagesse, l'intelligence et les perfections, eh bien, de ce Dieu créateur dans lequel... Bien sûr, nous croyons, nous, mais d'autres ne le croient pas. Et nous devons, parce que c'est notre premier service, lui rendre la gloire qui lui revient. Amen. Il attend cela, bien sûr. C'est Jérémie qui va dire ceci, Jérémie chapitre 10, verset 12. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. Alors qu'il annonçait la bonne nouvelle à Lystre, voilà que Paul, dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 16, il dira ceci. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Vous voyez, il n'a obligé personne et aujourd'hui, il n'oblige encore personne. Il, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Un chrétien, on sait. On sait pourquoi il est heureux. Amen. Et un collègue pasteur, il est auprès du Seigneur, mais il me disait, du haut du pupitre, c'est passé à Béziers, à Saint-Bède-Béziers. Oh, je vais vous dire qui c'est. Ephraim Ferris, pour ceux qui l'ont connu. Voilà. Il me regarde, il me pointe du doigt, il me dit, frère, garde toujours ton sourire. Moi, j'étais heureux. Je suis toujours heureux, hein. Mais bon, on ne cache pas quand on est heureux, on voit, hein. On voit l'espérance que nous avons, le monde le voit. Et quelquefois, ça les énerve, ça les agace. Eh oui, et puis ils se rendent compte que ce que nous vivons, c'est pas tout rose. Mais ils voient la tranquillité qui est dans notre cœur, ils voient justement ce bonheur d'appartenir au Seigneur, même s'ils ne peuvent pas le définir comme cela, eux. Mais ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui est différent. Ce jeune homme, je me souviens, il venait faire des missions d'été chez les pompiers et il me dit, est-ce que je peux dormir? Parce qu'on dormait, c'était des chambres de lit. Donc, ma chambre aujourd'hui, c'était pas ma chambre demain, parce que j'étais de repos. Hein, je revenais la fois suivante. Il me dit, je peux dormir dans ta chambre? Oui, pas de souci, elle est libre. Oui, viens, il y a un lit à côté. Et puis, il me dit, je sais pas ce qu'il y a chez toi, mais on est bien dans ta présence. Les conversations sont tout à fait différentes. Ça fait réfléchir ce que tu dis. Et il me dit, mais on est bien avec toi. Alors j'ai pu lui témoigner, lui dire pourquoi j'étais comme ça. Et puis je lui ai dit, écoute, si tu veux savoir la suite, tu viens au 169 avenue du camping. À l'époque, c'était ça, à Carpentras. Et oui. Et je lui ai dit, puis tu verras, c'est à 15h30. Il est arrivé à 15h30. Je lui attendais, moi. C'était dans le hall, j'attendrai. Je le vois arriver, il monte là, hop, la petite rue, l'impasse. Et puis, je l'ai fait entrer. Il est entré. Et puis, il s'est assis avec moi. Hein, on est allé devant, parce qu'on n'est pas derrière des gens, hein, on est devant. Hein, voilà. Et puis, il a écouté. Il m'a dit, je comprends pourquoi tu es comme ça. Et c'est vrai qu'on doit faire envie. Nous devons, nous, enfants de Dieu, eh bien, qui portons la lumière quelque part, faire en sorte qu'ils puissent la voir et être attirés par cette lumière. Amen. Les 24 vieillards d'Apocalypse 4, 11 vont se prosterner en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Toutes choses. Est-ce que tu sais que tu as été créé pour la gloire de Dieu? Amen. Des fois, on n'imagine pas, c'est tellement impersonnel, on dit, mais si, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Amen. Notre vocation, notre appel, c'est d'être des porteurs de lumière, de ne pas être caché sous le boisseau, sous la table. Mais c'est d'être vu, d'être reconnu. C'est un chrétien. Et oui, alléluia! Faut être fier. Hein, non pas baisser la tête, se cacher. Non, on ne m'a pas reconnu. Mais si, il faut qu'on te reconnaisse pour ce que tu es. Amen. Eh oui. Alors, retournons un instant sur la conception, la formation, la composition et le fonctionnement de tout ce que nous pouvons considérer comme le chef-d'œuvre du Créateur, l'être humain. Amen. Toi, moi. Le psalmiste reconnaissait, donc dans le psaume 139, eh bien, reconnaissait l'œuvre de Dieu dans sa propre personne. Et voici ce qu'il dit au verset 13. Hein. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Vous entendez? Hein? Il le disait, mais c'est pour nous aussi. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Dieu me voit dès le commencement, dès le sein de ma mère. Alléluia. Et quand on dit, mais moi je ne sais pas, je t'ai lâché comme ça dans la nature, au sein d'une société, ils sont tous méchants, voilà pourquoi je suis devenu méchant. Non, 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 non. Dieu nous a vus dès le commencement. Il savait ce que nous allions devenir. Il savait, pour nous qui sommes là cet après-midi, eh bien qu'un jour il y aurait une rencontre. Amen. Le carrefour avant, c'est lui qui nous a conduits pour être là au rendez-vous. Il nous a conduits à droite, on ne savait pas pourquoi on allait à droite. Paf ! Il était là. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré, qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Sauveur. Amen. Et puis, toute notre destinée, il la connaît. Et vous voulez vous éloigner de lui ? Mettre des distances entre lui et vous ? Non ! Non, non, il faut rester auprès de lui. Amen. Alors, quelque part, nous sommes loin ici de la théorie de l'évolutionnisme, hein, qui affirme que l'homme est le seul produit, le produit d'une lente, très lente, très lente, très lente évolution et de la matière vivante à partir de premières cellules informes, bien sûr, pour arriver au singe, dont nous serions les descendants directs. Un jour, une chrétienne a été mariée à un incroyant. Lui, c'était l'évolutionnisme à fond. Vous voyez? Et oui, donc il a mis en boîte, comme on dit. Hein, il a tordu dans tous les sens. Alors un jour, il va lui répondre, mais écoute, je ne savais pas que j'étais marié avec un singe. Ben oui, elle a eu la bonne répartie. Je pense que c'est Dieu qui nous donne des paroles quand il faut. Hein. Vous savez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il a cessé d'insister sur cette théorie, hein, de l'évolutionnisme. Et vous savez, il y a des réponses toutes simples. Et c'est pour ça que je dis que ça vient de Dieu, ça. Hein. À des moments, j'aurais jamais pensé pouvoir dire ça. Et puis ça a marché, ça a smatché, comme on dit, hein. Pof, dans le mille. Et ça a amené quelque part une réflexion et une transformation, un changement. Amen. Alors sachons voir et reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre propre existence afin de lui rendre grâce. Et je dirais, faisons cette prière du psalmiste, le psaume 119, verset 13. « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Alors, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Amen. C'est-à-dire à t'être agréable, à t'être utile, Seigneur, à faire ta volonté. Non pas parce qu'on va me botter les fesses, mais parce que j'ai le désir, la joie et le bonheur de te plaire. De faire ce que tu as attendu de moi. Tu m'as créé, Seigneur. Donc, que j'ai au moins l'intelligence d'apprendre hein, comme il le dit lui-même. Hein. Alors la Bible, bien sûr, c'est le livre par excellence qui amène à une vraie connaissance de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Et ça, c'est le second élément qui nous décrit très bien qui est Dieu. La lecture de la Bible nous apporte une autre perspective de la connaissance de Dieu concernant, bien sûr, sa personne à lui. Parce que dans la parole de Dieu, on apprend à connaître le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, les désirs, les volontés de Dieu. Et concernant ses sentiments, ses désirs, ses desseins, elle nous parle, bien sûr, aussi de sa recherche et de sa démarche pour pouvoir établir une relation avec nous les êtres humains, bien sûr, hein, avec nous personnellement, individuellement. Et c'est vrai que les Écritures corroborent le témoignage de l'univers. Parce qu'on y ajoute les récits des interventions de Dieu dans la vie des hommes, et on dit, ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'intelligence de Dieu. Qui aurait cru qu'en laissant mourir à la croix, ou en provoquant la mort d'un innocent, toute l'humanité pourrait être sauvée par ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice. Jésus s'est donné volontairement à la croix. Et c'est parce qu'il s'est sacrifié qu'il a choisi l'obéissance, c'est-à-dire à faire la volonté de son Père, que nous sommes là ce soir tout simplement parlant de lui, parlant du salut, parlant de la beauté de Dieu, parce que c'est cela, et c'est vrai. Et depuis la création d'Adam et Ève, Dieu a toujours manifesté son intention d'une réelle et étroite relation avec les hommes. Et la Bible nous apprend les merveilleuses réussites, la démarche de Dieu en ce sens, mais aussi les tristes et lamentables échecs dus à l'insensibilité, à l'incrédulité, et j'irai plus loin, jusqu'à la méchanceté du cœur humain. Eh oui. C'est le psalmiste qui dit ceci, psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et voilà, le mot est lâché. Elle donne l'intelligence aux simples. Eh oui. Jésus a pris l'exemple des enfants. Laissez venir les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Et surtout, soyez comme eux. Soyez à leur image. Ils sont simples. Hein, vous faites une promesse à votre enfant. Vous partez faire des courses et vous dites, je te ramène ça. Il est devant la porte, il attend. Où c'est? C'est où? C'est où? Eh oui, parce que c'est comme ça, il croit. Et si nous pouvions être ainsi? Non? Si nous pouvions être ainsi. Alors, les révélations de tes paroles éclairent. On a besoin de cet éclairage-là. Amen. Et elle donne l'intelligence, donc on en a besoin pour vivre en harmonie avec Dieu. Dieu a voulu se révéler au monde de la manière, je dirais, la plus parfaite, en envoyant sur la terre qui ? Son Fils unique, dans un cas encore semblable au nôtre. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris forme humaine et qui est venu jusqu'à nous, c'est Dieu. Et Jésus a pleinement manifesté dans le monde la puissance, la compassion, la beauté, la bonté, l'amour, la bienveillance, la sainteté, la justice, la pureté de celui qui s'appelle son Père. C'est notre Père. Amen. Notre Père céleste lui-même dira ceci. Hein. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, moi. Eh bien, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus également est la révélation parfaite de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Cherche pas. Je ne t'ai pas donné ça. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément important qui nous conforte et qui nous fait justement croître et grandir dans la connaissance de Dieu. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, dit Paul, ce sont des paroles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Donc Dieu entre en relation par son Esprit avec notre esprit. Notre intelligence. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et l'apôtre Paul a écrit qu'il priait afin justement que la connaissance de Dieu se développe dans l'esprit de ceux qui étaient devenus des disciples de Jésus-Christ, devenus des enfants de Dieu. Amen. Plus des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu. Il dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Et pour finir, parlons des fruits d'une vraie connaissance de Dieu. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait un aboutissement, il faut qu'il y ait une leçon, il faut qu'il y ait quelque chose, un enrichissement personnel. Alors si le but n'est pas d'augmenter d'abord notre savoir intellectuel ou de satisfaire notre curiosité, la connaissance de Dieu aura pour effet de nous enrichir. De nous aider également à grandir, c'est-à-dire de nous édifier spirituellement dans plusieurs domaines. Elle produit déjà la foi véritable. La foi véritable. Sur ta parole. Amen. Elle produit une foi saine et ferme. C'est-à-dire qu'elle a un but, elle a un moyen de contact. Vous voyez ? Donc, une foi saine et ferme, elle produit également la crainte de Dieu. Alors, ce n'est pas la peur où on va se cacher. C'est un saint respect de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'est sa parole. Également, une véritable adoration. Amen. Une véritable adoration. Également, la sagesse d'une bonne conduite. La sanctification, c'est une mise à part. Je suis dans ce monde, mais je n'ai pas la mentalité de ce monde. Je vis au milieu d'hommes et de femmes qui me ressemblaient avant que je me convertisse. Mais maintenant, je suis différent. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre, que je ne peux plus dire, parce que je vais attrister l'Esprit de Dieu, parce que je vais faire souffrir mon Père et je vais lui faire du mal. Non, je ne veux pas cela. Amen. Alors déjà, une véritable connaissance de Dieu engendre la foi et une une profonde confiance en lui. Une profonde confiance en lui. Je sais que le monde dans lequel nous vivons, quelque part, il est fait de nombreuses trahisons. Et bien souvent, c'est ceux qui sont très près de nous, à qui nous faisons le plus confiance, qui arrivent à nous trahir les premiers. On tombe de haut. Quelquefois, c'est la colère qui nous anime et on se remet en question parce qu'on dit « Je suis enfant de Dieu, j'ai pas le droit ». La vengeance est à lui, c'est pas à moi. Vous voyez ? Mais c'est comme ça, bien sûr. Alors, c'est lorsque Abraham a eu la révélation d'El Shaddai, c'est-à-dire du Dieu Tout-Puissant, qu'il s'est prosterné pour l'adorer et qu'il a eu une pleine confiance à lui. À plusieurs reprises, l'Éternel est apparu à Abraham et au fil des années, il s'est révélé à lui d'une manière particulière, se faisant connaître à tel point qu'il a acquis une entière conviction concernant la fidélité et la puissance de Dieu jusqu'à accepter d'offrir son fils Isaac sur l'autel. Il a vu le couteau là-même. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et Hébreux 11, verset 17 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Son unique. Vous vous rendez compte ? Et même ce fils-là disait, « Père, il y a le feu, il y a le bois. » Mais où est la victime ? Mon fils, Dieu se pourvoira. Non, ça devait être dur à faire passer. Hein. Dieu se pourvoira. Mais pourtant, il l'a fait. Il avait confiance que même s'il allait jusqu'à l'immoler, à l'égorger, Dieu était capable de le ramener à la vie. Ça, c'est la foi. Croyez pas ? C'est la foi. La révélation de la sainteté de Dieu elle produit en nous le besoin de progresser dans la sanctification. Ma mère, quand j'étais petit, elle me disait « Mange, l'appétit viendra en mangeant ». Ça, c'était pour moi, c'est pour ma mère, ça a été difficile. Hein. J'étais un mauvais mangeur. Enfin, j'étais très difficile. Bon, aujourd'hui, je ne le suis plus. Hein. Mais quelque part, je suis mis à part. Je suis enfant de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Et je vais marcher de victoire en victoire. Il y en a des victoires qui coûtent. Mais je vais jusqu'au bout parce que je veux plaire au Seigneur, parce que je ne veux pas le décevoir. Il m'a choisi. Et à partir de là, eh bien, je vais grandir dans la sanctification. Voyez ? Et quelquefois, il y a, à la fin de l'année, tu as eu des épreuves, hein, l'examen de passage. Hein. On arrive au palier, il y a l'examen de passage. Et là, il y a quelque chose d'encore plus sérieux, plus important et plus difficile. Alors, on réussit ou on est recalé pour l'année prochaine ou pour la prochaine fois. Voyez ? Eh bien, c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout. Et c'est là que ça devient, c'est là que c'est le pire. C'est là que c'est le pire. On se dit, mais j'ai jamais vécu une épreuve semblable. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a abandonné? Non. Non. Il est là. Il est là, mais tu es en train de passer l'examen. Faut que tu réussisses. Oh, une mention, c'est mieux. Hein? Oui. Eh oui, eh oui. Le prophète Ésaïe a parfaitement exprimé le sentiment de quelqu'un qui se trouve confronté à la sainteté parfaite de Dieu. Il dira ceci, je ne vais pas pour longtemps, hein, je vais finir. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison de l'Éternel se remplit de fumée. Alors, Ésaïe, il s'est dit « Mais malheur à moi !» Il sentait que c'était la présence de Dieu là. Il sentait que c'était le rendez-vous avec Dieu. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Eh oui, eh oui. Vous voyez, la connaissance de Dieu le produit un respect extrêmement important envers lui, en sa parole, et conduit à l'obéissance. C'est la crainte de Dieu. Amen. C'est la crainte de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, Hébreux chapitre 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Amen. Une crainte respectueuse. Et il s'est mis debout, il a obéi. Il a fait la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va condamner le monde, parce qu'il va obéir, faire ce que Dieu attend de lui. Après, il y aura le déluge, vous le savez. Hein. Et c'est Dieu qui a fermé la porte, et à partir de là, personne ne pouvait l'ouvrir. Eh oui. Alors, lorsque nous devenons conscients de sa grandeur, et je conclue, de sa gloire et de sa souveraineté, nous sommes saisis de cette crainte de Dieu, qui est en fait un saint respect. Un saint respect envers lui, qui va produire en nous ce désir d'obéir. L'obéissance à sa parole. À ce sujet, nous remarquons dans l'Écriture qu'il y a ceux qui confessent appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Un grand besoin de grandir dans la connaissance du Seigneur est là, bien sûr. La gloire de Dieu et la gloire de notre Père céleste, eh bien, c'est un désir que nous avons les uns et les autres. Et l'apôtre Paul qui écrivait à Tite dit ceci, Tite chapitre 1 verset 16, au sujet de certaines personnes qui, elles, se disaient croyantes. Mais la conduite n'était pas en osmose, n'était pas en relation avec. Vous voyez, quelque part, il y avait des comportements qui laissaient perplexes. Hein, voilà. Alors, il dit ceci, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Que faisait Paul? Il les pointait du doigt, il les accusait. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Mais il a prié pour eux. Et pour que ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, quelque part la révélation de l'amour de Dieu pour eux, puissent grandir dans cette connaissance afin de marcher d'une manière qui plaise au Seigneur, d'une manière digne du Seigneur. Amen. Et c'est vrai, hein, si je vois mon frère qui n'est pas en harmonie ou en osmose avec la parole de Dieu, mais au contraire, plutôt eh bien, en opposition, qui donne un mauvais témoignage, je vais d'abord prier pour lui ou pour elle. Ça peut être une sœur aussi. Hein. Voilà. Et puis je vais prier. Je vais demander au Seigneur de l'aider à rectifier sa position, de se remettre en question. Je vais prier. Et puis bien sûr, je lui parlerai aussi. Mais pas avec le gourdin à la main. Hein. Non, non, je vais parler avec amour. Hein, lui faire comprendre. Hein. Lui faire comprendre que eh bien, il n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et c'est grave pour lui, c'est dangereux même pour sa vie. Hein. Donc tu as besoin de te remettre en question. Et puis voilà, je prie avec toi parce que tu en as besoin. Il faut que je t'aide. Je suis là pour ça. Voilà, voilà comment ça marche. Et puis, sans élever les paroles trop hautes, eh bien, on gagne son frère. Amen. Hein? Puis s'il n'écoute pas, on va chercher un autre frère. Parce que c'est la parole de Dieu, ça. Hein? On va en chercher un autre et ensemble, on y va. Et puis, on lui parle. Et puis, la fin, bien sûr, c'est grave. Hein? Dis-le à l'église. Eh oui. Alors avant que ça en arrive là, eh bien, on a des démarches à faire avant. La prière, hein, se tenir à genoux. Jeûner même pour quelqu'un que l'on voit prendre le mauvais chemin, hein, ce chemin dangereux de la perdition, il a connu. C'est dommage, il a connu. Eh oui. Donc c'est important de faire comme ça. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Hein. C'est quand on connaît Dieu comme Dieu amour, on se dit, attends, moi, il avait de nombreux reproches à me faire, hein. Oh là là, s'il avait pris le gourdin à chaque fois pour me taper dessus, j'aurais des bosses de partout. Hein. Je serais mal formé. Hein. Mais non, il a pris le temps. Allez, hop, il a mis quelque chose devant moi. Quelqu'un peut-être. Hop, ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me parler. J'étais surpris. J'ai dit, waouh, ça fait du bien. Au lieu de prendre un mauvais chemin, vous voyez là, hop, hop, hop. On te glisse une parole. Oh, tu dis, ça c'est de Dieu. Oh, mais oui, il a raison. Il a raison. Et puis on rectifie. On fait marche arrière, hein, demi-tour. Hop. Et puis on prend l'autre route. L'autre direction. Et c'est bien. Amen. On va prier ensemble, vous voulez bien? Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que tu nous as laissé. Merci de nous aider à te connaître de mieux en mieux, Seigneur. Parce que c'est ton désir que nous puissions te connaître. Pas seulement reconnaître ta voix, mais connaître ton cœur. Quand tu veux nous révéler, Seigneur, quelque chose que nous puissions dire, ça vient de Dieu. Merci de m'aider à me préparer, Seigneur, à recevoir ce que tu me donnes. Merci de m'aider à aller, Seigneur, et d'être un encouragement pour les autres. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu ne pas m'apercevoir, Seigneur, que je pouvais faire quelque chose dans cette situation. Alors sois béni de vouloir te servir de nous. Seigneur, de nous aider à te connaître de mieux en mieux, à grandir dans cette connaissance, Seigneur, qui est celle de ton cœur, de ta volonté, de tes désirs et de ta pensée. Seigneur, aide-nous, parce que nous avons besoin de toi dans ce domaine-là. Seigneur, à te ressembler de plus en plus. Seigneur, donne-nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci de nous fortifier intérieurement. Nous avons besoin de toi. Et je le crois, ce soir, tu as parlé. Tu as parlé parce que tu voulais faire du bien. Tu voulais éclairer quelqu'un aussi, peut-être. Merci, Seigneur, de te manifester au nom de Jésus. Amen. Amen.